Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'Évangile d'aujourd'hui nous dévoile une petite partie, toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait croire que cette transfiguration de notre Seigneur au sommet du mont Tabor est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Notre Seigneur étant Dieu, il aurait dû être transfiguré tout le temps. Donc Dieu cachait sa divinité sous son humanité. Et là, devant trois de ses apôtres, il va lever une toute petite partie du voile de sa divinité, de ce voile de son humanité, pardon, pour que sa divinité puisse être vue au moins en partie. Remarque d'abord, et ça c'est important, je crois, de bien préciser les choses, il n'y a aucune égalité entre les apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ aime tous les apôtres, mais il y en a qui l'aiment plus que les autres. Il va prendre avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Pourquoi Saint-Pierre? Parce que Saint-Pierre deviendra le premier pape. Saint-Jean, parce que Saint-Jean était l'unique apôtre vierge, l'apôtre que Jésus aimait tout particulièrement à cause de cette virginité. Tous les autres apôtres étaient mariés. Et également Saint-Jacques, parce que Saint-Jacques sera le premier apôtre à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et devant eux, il va être transfiguré. Son visage va devenir blanc comme le soleil, ses vêtements comme la blancheur du foulon, du vêtement qui est passé par le foulon. Et donc les apôtres, en voyant cela, vont avoir une joie intense. Et ils vont dire cette phrase magnifique: Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si vous voulez, construisons trois tentes, mettons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Notre Seigneur Jésus-Christ n'apparaît pas tout seul, il apparaît avec Moïse et Élie, pour bien montrer que l'Évangile qu'il représente est la continuation de la loi et des prophètes. La loi, c'est Moïse, les prophètes, c'est Élie. Et donc, la loi et les prophètes mènent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette phrase, mes bien chers frères, est extrêmement importante. Il faudrait que vous et moi, à chaque fois que nous rentrions dans cette petite chapelle, nous puissions dire la même chose. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour moi d'être ici, il est bon pour moi de venir me sanctifier auprès du bon Dieu et en quelque sorte d'oublier, au moins pendant un instant, toutes les difficultés, les croix que je suis obligé de porter tous les jours. Donc, quand vous rentrez dans cette chapelle, eh bien, chers frères, pensez à laisser vos croix à l'entrée. Et rassurez-vous, on ne va pas s'envoler pendant la messe. Vous les retrouverez après la messe, mais vous serez beaucoup plus fort pour les porter. Donc, demandez à avoir cette joie, ce plaisir de venir assister à la Sainte Messe. Je pense qu'il est fondamental que nous ayons tous, mes bien chers frères, cet amour pour la messe. Il ne s'agit pas simplement d'assister à la Sainte Messe par pure obligation. Il s'agit d'assister à la Sainte Messe parce que nous rendons compte que nous avons impérativement besoin de la nourriture spirituelle que nous apporte la Sainte Messe pour que notre âme puisse tout simplement survivre. Ceci est extrêmement important. Si autour des années, fin des années 50, début des années 60, les prêtres malheureusement ont accepté le culte conciliaire de la Nouvelle Messe en 1969 sans pratiquement rien dire, c'est parce que précisément il leur manquait cet amour de la messe. Alors posons-nous la question, est-ce que j'aime la Sainte Messe? Est-ce que j'aime venir assister à la Sainte Messe ou est-ce que je viens ici simplement contraint parce que le bon Dieu m'a demandé le dimanche d'assister à la Sainte Messe pour nourrir mon âme? Il faut avoir ces convictions, bien cher frère. La connaissance du catéchisme n'est plus suffisante. Quand la connaissance du catéchisme n'est plus suffisante, il faut rajouter à cette connaissance du catéchisme un amour ardent pour notre Seigneur Jésus-Christ, un amour ardent pour la Sainte Messe. Alors oui, nous serons capables d'utiliser toutes ces grâces que le bon Dieu nous donne. Et cette phrase, il est bon pour nous d'être ici, c'est une phrase à double sens. Parce que ce n'est pas simplement nous qui devons prononcer cette phrase. Il faudrait que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse prononcer cette même phrase concernant notre âme. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il contemple mon âme, avant d'y rentrer pour la Sainte Communion, est-ce qu'il se dit, il sera bon pour moi d'être dans cette âme? Donc je vais y aller avec plaisir parce que je sais que je vais y être bien accueilli. Ou est-ce qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ pense, je vais être reçu dans cette âme et cette âme est bien sale. Certes, peut-être cette âme est en état de grâce, mais il y a des étoiles d'araignée partout, il y a la poussière partout parce qu'elle a mal été nettoyée. Ah mais bien, chers frères, pensons à augmenter en nous ce désir de la communion. Pas simplement le désir de la messe, mais également le désir de la Sainte Communion, précisément pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse dire lui aussi, il est bon pour moi de venir dans cette âme. Et si notre âme est toute préparée à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, alors notre Seigneur Jésus-Christ va y venir avec plaisir, et va y rester avec sa mère. Donc faisons ce début de carême un peu un examen de conscience. Est-ce que mon âme est prête à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que mon âme est suffisamment désireuse de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, suffisamment propre pour que notre Seigneur puisse dire « Il est bon pour moi de venir dans cette âme ». Et si je constate que peut-être que mon âme n'est pas suffisamment propre, prenons dès maintenant la résolution de nous confesser au plus tôt. Si je me rends compte peut-être que mon âme est carrément fermée à ce que notre Seigneur, pour que notre Seigneur Jésus-Christ ne puisse pas y rentrer, demandons, bon Dieu, qu'il nous donne les grâces avec humilité, les grâces actuelles qu'il a préparées pour chacun d'entre nous, pour que je puisse ouvrir les portes de mon âme. Le bon Dieu ne rentre pas dans une âme comme un voleur. Il ne va pas prendre un pied de biche pour rentrer dans l'âme. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte, il demande à rentrer. Mais il faut encore que nous soyons suffisamment désireux de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans une âme, qu'est-ce qu'il donne? Il donne justement cette joie, cette paix, cette lumière, cet amour pour la beauté. Les quatre signes dont parle Saint Ignace dans les exercices de Saint Ignace, justement, qui caractérisent la consolation. Donc il faut, mes bien chers frères, que nous ouvrions les portes de notre âme suffisamment grandes pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir nous apporter cette paix, cette joie, cette lumière, et cet amour pour le vrai et pour le beau. Il y a aussi d'autres explications que nous pouvons donner à propos de cette transfiguration. Les pères de l'Église voient derrière la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ d'autres symboles. Selon un sens qu'on appelle le sens allégorique, cette transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ représente toute la gloire de l'Église catholique. La gloire de l'Église catholique qui est une sainte catholique et apostolique, qui est divine, mais qui est cachée en partie au moins par notre humanité. L'Église est divine, mais les membres de cette Église ne sont pas divins. Nous sommes des pauvres pécheurs. Et il nous faut justement dans l'Église catholique, il nous faut dévoiler la divinité de l'Église catholique en ayant une humanité qui ne soit pas un obstacle à cette divinité. Si je suis membre de cette Église catholique, une sainte catholique est divine et romaine, et si je suis membre de cette Église mais que mon âme est toute sale, mon humanité va masquer la divinité de l'Église. Il faut que les gens de l'extérieur, en voyant justement notre façon de nous comporter, notre façon de nous comporter sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan social, il faut qu'ils puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ qui est derrière. Et si la divinité qui est en nous, par la grâce sanctifiante, est cachée, ou même malheureusement disparaît à cause du péché mortel, à ce moment-là, les gens de l'extérieur ne seront plus capables de voir cette divinité de l'Église, ils vont le voir plus que l'humanité de l'Église, ils vont perdre complètement la foi. Quant au sens tropologique, c'est-à-dire au sens moral, les pères disent que cette transfiguration représente la divinité directement dans notre âme. Cette transfiguration représente ce qui se passe dans une âme quand l'état de grâce arrive dans cette âme. Quand l'état de grâce arrive dans une âme, eh bien, chers frères, l'âme se met d'un seul coup à rayonner de façon extraordinaire, comme si un soleil venait de pénétrer dans cette âme. La raison pour laquelle il faut nous confesser régulièrement, souvent, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment briller dans notre âme tel qu'il le désire. Souvent, il voudrait briller dans notre âme de façon extraordinaire pour que notre âme soit une lumière extraordinaire pour le monde, qu'elle soit non pas cachée sous la table, mais sur le chandelier pour que tout le monde puisse la voir. Mais malheureusement, cette lumière est mal visible parce que la vitre de notre âme est une vitre qui est toute maculée par la boue, maculée par la poussière, ce qui fait que la lumière passe mal à travers. Nous sommes des vitrines, mes bien chers frères. Nous sommes des vitrines, il faut que notre âme soit une vitrine qui laisse transparaître justement cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre vitrine est toute sale ou mal présentée, les gens qui vont passer devant la vitrine n'auront qu'une envie de s'arrêter pour regarder ce qu'il y a dedans. Au contraire, si notre âme est une vitrine magnifique, toute propre, bien décorée, bien arrangée, les gens qui passent vont vouloir s'arrêter et vont rentrer dans notre magasin. Ils vont rentrer dans notre âme pour essayer justement d'avoir eux aussi le secret qui est le nôtre, à savoir le secret de l'appartenance à l'Église catholique, la véritable Église, hors de laquelle personne ne peut être sauvé. Et le troisième sens, qu'on appelle le sens anagogique, explique que cette transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ représente le paradis qui nous attend. Donc notre Seigneur dévoile une petite partie, toute petite parcelle de sa divinité, justement pour nous faire comprendre, au paradis, il n'y aura plus, on verra plus exactement, on verra cette divinité, mais sans aucun frein, sans aucune partie humaine qui va en quelque sorte cacher, masquer cette divinité. Voilà ce qu'est le paradis. Il y a beaucoup d'autres points que nous pourrions expliquer dans ce magnifique évangile. Quels sont les conseils que Dieu va nous donner par cette transfiguration? Au moment où notre Seigneur Jésus-Christ se transfigure devant ses apôtres, eh bien, il y a Dieu le Père qui va parler. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. Quel conseil de notre Seigneur? D'écouter, d'ouvrir les yeux de notre âme, les yeux de notre intelligence, les yeux de notre volonté, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions nous imprégner justement de la divinité et de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, si les sens spirituels de mon âme, si les yeux de mon âme sont fermés, les yeux de mon cœur sont fermés, les yeux de ma volonté sont fermés, le bon Dieu ne peut pas rentrer dans notre âme. Parce qu'il ne rentre pas dans notre âme si nous ne voulons pas ouvrir tout grande les portes de cette âme, les fenêtres de notre âme, le bon Dieu travaillant avec notre volonté propre et respectant cette volonté propre. Alors il faut apprendre à dire au bon Dieu: mon Dieu, faites en moi ce qui vous plaît, prenez, recevez ma mémoire, mon intelligence, ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout est à vous. Et indiquez-moi ce qu'il faut que je change pendant ce carême, le carême c'est fait pour ça, ce qu'il faut que je modifie pendant le carême pour justement pouvoir ouvrir davantage les portes, que les gonds soient bien huilés pour que la porte de mon âme puisse s'ouvrir largement et que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment rentrer et faire ce qu'il veut dans notre âme parce qu'il est chez lui. Il ne faudrait pas que nous ayons la honte de dire au bon Dieu: écoutez mon Dieu, vous n'êtes pas chez vous ici, vous êtes chez moi. Donc restez, n'en demandez pas trop, notre Seigneur Jésus-Christ est chez nous. Comme chez lui, puisque c'est lui qui est maître de notre âme, c'est lui qui l'a créé, cette âme. Notre âme, ce n'est pas simplement notre âme, c'est aussi le château de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ étant le roi de ce château, a le droit évidemment de rentrer dans cette âme et d'exiger de nous une propreté parfaite de cette âme. Il y a un dernier conseil qui nous est donné par cet évangile: noli timere, ne craignez pas. On pourrait évidemment, lorsque nous contemplons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous voyons cette extraordinaire divinité de notre Seigneur qui se manifeste par la transfiguration, nous pourrions être apeurés. D'ailleurs, les apôtres même au début ont été complètement paniqués, ils n'osaient même pas regarder cette divinité qui leur a été présentée. Et donc il faut écouter notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit par cet évangile: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que par ma mort sur la croix, le Vendredi Saint, je vous ai préparé toutes les grâces dont vous avez besoin. Toutes les grâces dont vous avez besoin afin que justement vous soyez renforcés par cette grâce sanctifiante. Nous sommes des pauvres gens, bien chers frères, et nous avons besoin de la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre Seigneur Jésus-Christ nous donne cette force, notre force humaine va être divinisée, transfigurée en quelque sorte par la force de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donnera tous les moyens pour justement nettoyer notre âme chaque jour davantage pour que nous soyons vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. Cette transfiguration donc n'est pas simplement la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, elle représente notre propre transfiguration. Il faut que nous, dans le monde moderne, nous soyons, nous aussi, des soleils de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les gens qui sont dans la nuit du monde moderne, où il n'y a plus aucune lumière, il faut que les gens puissent voir parmi nous, chez les chrétiens, les vrais catholiques, il faut que les gens du monde puissent voir dans ces chrétiens la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il le dit expressément dans l'Évangile: vous êtes la lumière du monde. Et la lumière du monde ne se cache pas dans un placard. Elle se met sur la table pour qu'elle illumine justement tous ceux qui passent à côté. Posons-nous cette question, est-ce que je suis la lumière du monde? Est-ce que je suis pour les gens qui me voient autour de moi, est-ce que je suis la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle? Est-ce que les gens qui me regardent voient notre Seigneur Jésus-Christ derrière moi? Comme ce protestant qui est allé voir le Saint Curé d'Ars, et au retour de son voyage, ses amis lui demandent en Angleterre, qu'est-ce que vous avez vu? Et il a répondu, je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu derrière cet homme. Posons-nous la question, est-ce que les gens qui me côtoient, les gens qui sont avec moi, est-ce qu'ils voient Dieu derrière tout ce que je fais? Est-ce qu'ils voient Dieu derrière ma façon d'utiliser mon intelligence, ma façon d'utiliser ma volonté, ma façon d'aimer avec mon cœur? Est-ce qu'ils voient Dieu ou est-ce qu'ils voient l'homme? S'ils voient Dieu, à ce moment-là, ces âmes vont être élevées vers notre Seigneur Jésus-Christ. Si au contraire, ils voient l'homme, non, malheureusement, ils vont, au lieu d'être élevés vers notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont garder la tête dans la boue, ils vont finir par mourir, vaut mieux mourir d'inanition. Alors demandons, mes bien chers frères, pendant cette messe, justement après notre communion, notre sainte communion d'aujourd'hui, demandons cette grâce de savoir regarder vers le haut, regarder notre Seigneur Jésus-Christ, et demander à notre Seigneur Jésus-Christ, par cette sainte messe, d'avoir toutes les grâces dont nous avons besoin. Je voudrais aussi dire deux mots sur une fête qui est certainement la fête d'un des plus grands saints de l'Église catholique. Le 7 mars, c'était la fête de saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien de l'Église, le plus grand philosophe de l'Église catholique. N'oublions pas que, parce que le pape Saint-Pilice a condamné le modernisme par son encyclique Pascendi Dominici Gregis en septembre 1907, à la fin de l'encyclique, il donne un certain nombre de conseils, de moyens pour lutter contre le modernisme. Et un des conseils qu'il donne en tout premier lieu, c'est le retour à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin ne sont pas simplement des philosophies, une philosophie et une théologie pour les prêtres, mes chers frères. Saint Thomas d'Aquin est vraiment le docteur de notre âme, dans le sens de médical du terme, littéralement, c'est celui qui va nous ramener les pieds sur la terre et la tête au ciel. Quelle est la grandeur de saint Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin est le maître de la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, c'est la philosophie qu'on appelle l'objectivisme. Nous vivons dans un monde où les gens sont complètement détachés du réel. Ils vivent dans le virtuel tout le temps. À cause de tous ces écrans qui sont partout, à toute cette électronique partout, les gens sont complètement déconnectés du réel et vivent dans le virtuel. Et la philosophie de saint Thomas d'Aquin, la théologie de saint Thomas d'Aquin est une théologie, une philosophie qui justement nous ramène au réel. C'est pour ça qu'on appelle sa théologie, la philosophie ou la philosophie du réalisme. Pour contrer la philosophie moderne, qui est une philosophie qu'on appelle idéaliste. C'est la philosophie de Kant. C'est la philosophie de tous ces philosophes modernes qui ont tellement fait de mal au cerveau moderne. Donc il faut, mes bien chers frères, prier saint Thomas d'Aquin pour qu'il intercède auprès du bon Dieu, pour que nous retrouvions l'usage de notre intelligence. Notre intelligence est un don extraordinaire que nous a donné le bon Dieu. Mais il faut la protéger, il ne faut pas laisser notre intelligence être envahie par toutes les miasmes du monde moderne, sinon cette intelligence ne pourra plus fonctionner normalement. Et il faut protéger justement notre intelligence pour qu'elle puisse nous indiquer la direction du vrai, parce que c'est pour cela que le bon Dieu nous a donné une intelligence. Quel est l'objet de la formelle de l'intelligence? L'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Et c'est pour ça que le bon Dieu a donné un certain nombre de moyens d'action de cette intelligence, qu'on appelle les premiers principes, le principe de causalité, le principe d'identité, le principe de non-contradiction, justement pour nous aider à nous rapprocher du vrai et rapprocher les autres du vrai. Alors protégeons notre âme, et bien chers frères, justement par l'étude de cette véritable philosophie. Et tous ceux qui ont un peu de temps, justement, étudient saint Thomas d'Aquin. Vous avez peur de vous lancer directement dans la somme théologique, qui est évidemment un très gros morceau. Commencez par un livre tout simple, comme par exemple le catéchisme de la somme théologique par le père Pegue. Et bien c'est un livre tout simple qui justement explique un peu comme la façon d'un catéchisme sous forme de questions-réponses toute la théologie de saint Thomas d'Aquin, toute la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, et nous aide à comprendre à ce moment-là et à aimer saint Thomas d'Aquin. Et après, petit à petit, vous pourrez lentement vous lancer dans la somme elle-même. Si j'ai commencé ce jeudi, ces cours sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, j'ai déjà fait toute la première partie, sa première partie, et bien C'est précisément pour cela, même si vous ne pouvez pas assister au cours, je vous conseille d'aller sur le site Dame Marie, dont je m'occupe. Et sur ce site, vous avez justement tous les cours, je crois 24 cours sur la première partie de la somme. Imprégnez-vous justement de la véritable philosophie, la véritable théologie de saint Thomas d'Aquin. Si saint Pédis nous demande d'étudier saint Thomas d'Aquin, c'est parce que saint Thomas d'Aquin protège les intelligents. Alors pourquoi dans le monde moderne, dans l'église de Vatican II, ils ne connaissent même plus saint Thomas d'Aquin ? Ils n'ont jamais ouvert la somme. Pourquoi ? Parce que saint Thomas d'Aquin, c'est comme un bouclier justement contre l'idéalisme. C'est un bouclier contre la philosophie virtuelle. Et ça nous oblige à garder les deux pieds sur la terre, avec bien sûr la tête vers le ciel. Alors prions, mes chers frères, prions saint Thomas d'Aquin pour qu'il nous aide à penser droit. La première chose que nous devons faire pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être vraiment le roi de notre âme, c'est réapprendre à penser droit. Et nous avons été tellement contaminés par le monde moderne, par le libéralisme du monde moderne, qu'il nous faut justement introduire dans notre âme la véritable philosophie, la bonne théologie de saint Thomas d'Aquin, pour que nous réapprenions à penser droit. Et en repensant droit, immédiatement les portes de l'âme s'ouvrent. Alors notre Seigneur Jésus-Christ peut venir et venir habiter chez nous et faire chez nous sa demeure. Demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire, évidemment, de notre Sainte Vierge Marie. Elle est la Mère de Dieu, elle connaît parfaitement le cœur de son divin Fils, l'intelligence de son divin Fils, et justement, elle nous a été donnée pour nous guider, nous amener vers celui qui est la voie, la vérité et la vie. Alors, prions pendant ce carême. Demandons, mon Dieu, cette grâce de savoir travailler sur notre cœur, travailler sur notre volonté, travailler sur notre intelligence pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le premier servi, l'unique servi dans notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.